Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du Énervé la suite France Inter Plus de Chris. Toute cette semaine, on rend hommage à cette grande voix de radio, première fipette devenue l'une des piliers de l'Oreille en Coin et la productrice de nombreuses émissions. Ce soir, un nouveau portrait sensible, son émission de 1999 à 2004, Laurentine Milbeau. Elle est née à Pointe-Noire au Congo, dans une famille difficile, battue par son père. Laurentine Milbeau, surnommée la malchance, est élevée par sa grand-mère. Son premier amour, Gaston, lui demande de venir le rejoindre à Paris. Elle dort dans le métro, cherche un travail de secrétaire, mais personne ne l'embauche. Hors de question pour Laurentine de quitter son boubou, alors elle fait des ménages, subit la violence et l'alcoolisme de son mari. Et puis, miracle, elle est repérée et commence sa carrière de comédienne en 1998 dans Black Meat Mac 2 de Marco Poli. Plusieurs films vont suivre, mais pas assez pour en faire un métier. Elle est restée aide à domicile. Laurentine Milbeau est décédée le 17 août 2015 à Paris. Plus de Chris, soirée intime sur France Inter.
Portrait sensible, chaque jour quelqu'un de célèbre dans son immeuble, dans sa rue, dans sa ville ou plus loin. Combien de temps il faut pour arriver au fond de votre sac ?
Avant, je fouillais. Mais là, maintenant, je mets tout par terre.
Oui, c'est plus rapide.
Ouais.
Est-ce que vous êtes du genre à changer de parfum souvent ou vous avez toujours le même ?
Je change beaucoup. Quand je sens sur quelqu'un, je le cherche.
Et est-ce que vous faites pareil avec les garçons ?
Bon, quand un garçon me fait chier surtout, je le laisse. Avant, c'était mon cas. Je pouvais pas rester avec un homme hypocrite, impoli et tout.
Ouais.
Là, je me suis assagie un peu.
Ah, vous supportez les hommes hypocrites et impolis maintenant ?
Non, je les supporte pas. On dirait que c'est moi qui deviens hypocrite.
Est-ce que vous êtes célèbre ?
Bon, en ce moment, on parle de moi. Mais est-ce que c'est la célébrité ? Je ne sais pas encore.
Et pour qui aimeriez-vous être célèbre ?
Pour mes enfants et pour... ma famille au Congo, ma mère, ma sœur, oui, la famille Kondi. En Afrique, quand quelqu'un a la malchance dans sa vie, son premier gosse lui donne ce nom.
Ah oui.
Surtout un papa. Parfois, on appelait les gens misère, parce qu'il y avait la misère à la maison, malchance, parce que le père était malchanceux. Et j'ai demandé à maman, pourquoi sur l'acte de naissance, c'est pas malchance, c'est Laurentine ? Et ma mère me dit, ton père est allé à la mairie quand tu es né. Il a voulu te donner le prénom de malchance, mais il y a eu quand même une dame qui travaillait là-bas qui a dit non, on ne peut pas donner ce prénom à une fille.
C'était une brave dame.
Oui, oui, oui. Je ne l'ai pas connue, mais je lui dis merci quand même. Comme il s'appelait Laurent, il a dit, mettez Laurentine.
Ce qui fait que vous vous appeliez, mais on l'a oublié, Malchance, Laurentine,
oui.
Et Milbeau.
Oui.
Et vous l'avez sûrement vu dans Black Meat Mac 2, où elle jouait génialement une patronne de resto à la recherche d'un homme, ou dans Elisa en Dame Pipi, causant avec Vanessa Paradis. Laurentine Milbeau est comédienne, quand elle ne joue pas, elle est femme de ménage pour gagner sa vie. Une drôle de vie, pas si drôle au début.
La première image que j'avais de ma famille, c'était mon père qui ne rigolait pas. Il riait jamais, mon père. Ouais. Quand il voyait les autres rire, il se mettait en colère. Il pensait toujours qu'on se moquait de lui.
Ça se passait où ?
Au Congo-Brazzaville.
Ouais, oui. Vous êtes née là-bas ?
Oui, je suis née à Pointe-Noire. Ma mère, elle pleurait souvent.
Ah.
Elle n'avait pas de copine.
Ah oui. Donc c'est pas une image très gaie de vos parents.
C'est pas une image gaie du tout de mon enfance, quoi. Mm-hmm. En ce temps-là, on disait ma petitesse.
Donc dans la famille, il y a le père qui est pas très marrant, la mère qui est pas très heureuse.
Aigrée, oui.
Et les grands-parents, il y a d'autres parents autour
de
vous ?
Ah oui, j'ai ma grand-mère qui venait souvent nous voir. Elle s'appelait Mbongo, très souriante, très belle, ma grand-mère.
Ah.
Parce que c'est elle qui m'a élevée jusqu'à l'âge de 4 ans, parce que je ne marchais pas. J'étais paralytique. Et ma grand-mère a tout fait pour que je marche. Elle allait chez les féticheurs. On me faisait des incisions sur les jambes et tout, pour que je marche. Et quand j'ai marché, ma grand-mère a eu la malchance, l'erreur d'aller dire à mes parents que je marchais. Elle était contente, la pauvre.
Ouais.
Et là, mon père m'a arraché des mains de ma grand-mère parce que je marchais, oui. Mmh. Il m'avait abandonnée, je marchais pas. Et là, l'enfant marche, ce n'était plus une honte, quoi.
Ouais.
Après, quand mes parents ont divorcé, au tribunal, avant, on demandait aux enfants de choisir avec quels parents ils pouvaient rester. C'était à moi, de, parce que j'étais la première à la famille, j'étais avec ma sœur, c'était à moi
De choisir
avec quels parents. J'ai choisi mon père malgré sa méchanceté, malgré les coups qu'il me donnait, je l'ai choisi.
Mais vous aviez quel âge ?
J'avais 6 ans.
Ah oui.
Oui, j'avais 6 ans.
C'est difficile pour une petite fille de devoir choisir comme ça ?
Bien sûr, devant tout le monde, il y avait un tribunal, il y avait du monde. Et on dit, c'est à l'enfant de choisir avec quels parents. Et je regarde, est-ce que c'est la peur de papa ou quoi ? Je dis, je vais avec papa. Mais papa, c'est pas moi qu'il voulait, c'est ma sœur qu'il voulait. Ah. Parce que c'était sa préférée, ma sœur. Mais ma sœur n'aimait pas mon père. Ma sœur avait peur de mon père.
Ouais.
Et j'ai choisi papa. Et en sortant, j'ai vu papa qui n'était pas bien et tout. Je suis partie avec lui, il a quand même fait quelques courses, mais il ne me parlait pas, il n'était pas gay. Je me disais, mon Dieu, j'ai fait une erreur, j'ai gâché la vie de tout le monde et tout. Et après, il y avait quand même un droit de visite pour ma sœur. Et un jour, papa va chercher ma petite sœur, Mongele Thérèse. Et après, il prend la décision de nous emmener dans son village sans demander l'avis de maman.
Et il vous enlève.
Et il nous enlève.
Oui.
Il nous kidnappe, comme on dit ici. On arrive à Dolizy, on arrive au village de papa, les Boulous. Et là-bas, papa nous laisse chez sa sœur.
Donc là, vous êtes élevée par votre tante.
Oui.
Ouais.
Bon, papa est resté un petit peu avec nous. Hein. On allait à l'école.
C'était comment l'école ?
Ah oui, l'école. Là, on était libre de rire avec les autres, mais il y avait quand même un truc. Il ne fallait pas aller à la maison avec une boîte à symboles. La boîte à symboles, c'est... On mettait de la merde, je pense que c'était...
De la merde dans la boîte ?
Dans la boîte.
Quand on vous l'accrochait autour du cou ?
Autour du cou. Et quand on ne parlait pas français, on vous donne ça.
Parce que vous étiez obligé de parler français
à
l'école.
Ah oui, on était obligé de parler français. On ne parle pas français, on vous met ça. Et quand vous allez avec à la maison, c'est des coups. La chicotte, hein.
C'est quoi la chicotte ?
La chicotte, c'est des coups de liane. Ben, c'était un fouet, quoi. Ici, ouais. On appelle ça fouet.
Le martinet.
Oui, oui.
Et vous aviez souvent la chicotte ?
Ben, je faisais quand même tout pour ne pas...
Avoir la boîte à symboles.
La boîte à symboles, oui. Et un jour, moi, du coup, malchance, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un derrière moi. Et je parle en patois. Oh là là, on vient me donner la boîte à symboles. Je me suis mise à pleurer, je dis, mon Dieu, aujourd'hui on va me tuer. Et j'arrive avec, papa me regarde, il me dit, on t'envoie à l'école, tu parles patois, c'est quoi ça ? Et j'ai eu des coups que moi je repense encore. Et j'ai tout fait pour ne plus avoir cette boîte à symboles. L'école était loin, on allait le matin, il fallait le soir préparer un peu de bouffe, un peu de manger. Et on allait à pied, c'était peut-être 5 ou 6 kilomètres de là. Hein. Ben, on restait là-bas jusqu'au soir et on revenait. Mais c'était bien parce qu'on allait en groupe, on chantait. On chantait là, il n'y avait pas
Qu'est-ce
papa.
Qu'est-ce que vous chantiez ?
Je me rappelle qu'on chantait... Moussanga misale ning ning, usalu mudu bange ning ning. Ipobore babole ning ning, uboa mundu ngwe ning ning. Mama, iye ning. Et c'était tout un groupe, on allait... Iye ning ning, tata, iye ning. On partait. Il n'y avait pas papa à côté. Et
qu'est-ce que ça veut dire, cette chanson ?
C'est une histoire, c'est un conte, quoi. Une fille qui avait laissé son collier au bord de l'eau. Elle est repartie pour chercher son collier et il y a eu un génie, un diable, qui a pris, qui a mis dans son tam-tam. Et quand elle est partie, elle a vu le diable lui dit, cherche ton collier dans le tam-tam. Elle rentre et le diable l'enferme dedans.
Ah.
Oui. Donc quand on partait, on chantait ça. Parce que quand papa est parti, après, il nous a laissé chez sa sœur. Sa sœur, je ne sais pas, elle nous a prises en grippe parce que nous n'étions pas du même village qu'elle. Elle nous prend en grippe. Elle va me montrer son champ. Elle dit, si vous voulez manger, tu prends ton manioc, tu mets dans l'eau et tu t'occupes de ta sœur. Et moi, à 7 ou 8 ans, j'ai commencé à m'occuper de ma sœur.
Ah oui. Oui. C'est une grosse responsabilité
quand même. Oui, mais dans le village africain, les enfants, surtout les filles, commencent très... vite à s'occuper de soi-même. Je pense que c'est depuis là que j'ai commencé à faire la comédie parce que je ne voulais pas pleurer devant elle alors que j'avais peur. J'avais peur de rentrer dans ces forêts-là où on disait qu'il y avait des gens qui tuaient. Mais moi, petite fille, il fallait que j'emmène ma petite sœur à l'hôpital parce que je me disais, si elle mourait ici, je pense que je resterais seule et j'allais avec elle.
Donc vous alliez toute seule dans la forêt dans avec la votre forêt. Petite fille sur le dos en chantant.
En chantant, oui.
Et là, qu'est-ce que vous chantiez?
En chantant, je chantais. Oh, tchari mama, rimbulo wa unana, mengina balange, yume murimu diengila, eme matsue lubanga mwila. Mais je pensais quand même à ma mère, je disais, quand je pense à toi, j'ai le cœur qui me fait mal et j'ai des larmes.
De la comédienne Laurentine Milbeau sur France Inter Plus, le NRV la suite.
Et un jour, en revenant de la pêche, on arrive, on trouve beaucoup de monde dans la cour de notre oncle. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On nous a dit que notre oncle a eu une attaque. On a essayé de l'emmener à Dolisie, mais en chemin, il est mort. Voilà, là, le cœur, notre cœur. J'ai pleuré. J'étais jeune, très jeune, mais j'ai pleuré. Cet oncle, parce que il m'a jamais tapé, il nous a jamais tapé.
En fait, c'était le seul adulte généreux.
Oui, généreux.
Et attentif à vous que vous ayez eu autour de vous.
Oui, oui, oui. Ouais. Il est mort et il fallait que papa s'occupe maintenant de nous. Et papa voulait épouser la première femme de mon oncle, parce que dans le village, je pense que c'est l'ethnie qui est comme ça, c'est la coutume. Quand le grand frère meurt. Le frère, le petit frère, peut prendre l'épouse du grand frère, peut l'épouser, oui. Il nous a emmenés dans un campement où il y avait des agents forestiers et tout. On arrive là-bas, lui, c'était les femmes d'autrui, il était toujours derrière les femmes des autres. Un jour, il tombait toujours malade, papa. Quand les autres allaient en forêt chercher des bois, du bois, des arbres, il était toujours malade pour batifoler avec les femmes des autres. Je pense qu'on le soupçonnait, un jour, un mari revient. Qui le trouve dans son lit. Et il a donné, comme il a frappé le mari de la femme. Il a frappé, mais chez nous, quand c'est comme ça, on te demande des dommages et intérêts. Il faut que tu payes. Mais papa n'avait pas d'argent. Et il y a eu le chef de ce campement-là qui est venu, un sage. Il y a eu du monde. On lui a dit, mais si tu n'as pas d'argent, on prend tes enfants en otage, que tu travailles pour payer. Il dit, bon, oui, j'accepte, mais demain, je vous donne les enfants demain et j'irai travailler. Et au milieu de la nuit, il nous réveille, papa, il nous dit, allez, habillez-vous, habillez-vous. On dit, mais où est-ce qu'on va? Il dit, allons-y. Et on prend nos baluchons, on part, comme ça, il nous emmène dans la forêt, la nuit. On ne sait même pas où on était, il nous a emmenés loin. Pour fuir, quoi. Mais peut-être à sa façon, il nous aimait, il ne voulait pas nous laisser.
Oui, je ne sais quand pas. Même
oui.
Pas,
oui. Oui. Il nous a amenés, nous sommes arrivés partout dans les villages où on arrivait, où on dormait, on nous donnait à manger. Je ne sais pas ce qu'il disait, il y a l'hospitalité quand même en Afrique. Bon, on nous donnait toujours à manger, après, le lendemain, on repartait. Jusqu'au jour où nous sommes arrivés à Mosenjo. On arrive là-bas, bon, on s'est installé un peu chez un ami à lui. On reste là, toujours des bagarres. Papa aimait jouer aux cartes. Il revenait parfois sans chemise, sans rien.
Demandez pas. Vous avez fini par retrouver votre mère quand même.
Oui.
Longtemps
oui.
Après?
Oui, longtemps après. On est resté peut-être 3 ou 4 ans là-bas, à errer, en aventure et tout. Et après un jour, papa travaillait chez un agent forestier aussi. Et il nous avait dit de ne jamais dire qu'on était de Pointe-Noire. Moi, je disais pas. Et un jour, autour d'un feu, papa n'était pas là. Il y a cet agent forestier qui parlait de son village, de sa ville et tout. Il parle de Pointe-Noire et tout. Et ma sœur ose dire, nous sommes de Pointe-Noire. Notre mère s'appelle Safo Elisabeth. Elle est de la famille Condi et tout. Et l'agent forestier qui dit, quoi? Vous êtes les enfants d'Elisabeth? Mais on vous cherche, votre mère pense que vous êtes morte.
Et quelle émotion pour vous.
Ah oui, mais j'avais peur, je me disais, papa va nous tuer, papa va nous tuer. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu as dit? Je dis, mais j'ai dit, je m'en fous, qu'il nous tue. Après, le gars dit, je vais dire à votre père où je l'amène à la police à Mossengo ou qu'il vous ramène chez vous.
Mais vous vous en souveniez de votre mère? De à quoi elle ressemblait? Comment elle
vaguement,
était
on ne savait plus. Et là, mon cœur, comme je n'osais pas demander, je dis, ah, elle est encore vivante. On entend une femme venir, ah, mes enfants. Ah, on est parti, on a pris, maman nous a prises. Comme on n'était pas bien, on était sales. Le lendemain, maman va acheter des vêtements pour nous. Après, on est parti à l'école, on allait à l'école, mais papa ne nous laissait pas. Hein. Donc, il est quand même resté, mais c'était à 3 kilomètres, peut-être 2 kilomètres de là. Et lui, son jour, c'était le dimanche pour aller apprendre la Bible chez les témoins de Jéhovah, avec les témoins de Jéhovah.
Donc vous passiez la semaine avec votre mère,
oui.
Et le dimanche vous voyez votre père,
oui,
qui
papa.
Du coup était venu s'installer près de vous.
Oui, il est resté, il n'est plus reparti. Ouais. Hein. Et tous les dimanches, il fallait qu'on parte. Un jour, maman nous dit, vous restez avec moi. Et le soir, on avait peur, on dit, ah, cette femme, elle ose braver l'homme. Et le soir, il débarque, il dit, pourquoi les enfants ne sont pas venus? Il a insulté maman. Et après, il dit, les enfants vont venir maintenant avec moi, tu vas voir, elles ne viendront plus. Et maman dit, c'est pas toi qui leur achètes des vêtements. Et là, je tombe enceinte. J'attends le soir, il arrive. Papa arrive. Cet homme qui était tyrannique, qui frappait les gens, je l'ai vu pleurer. Je l'ai vu pleurer, il a enlevé, il a pleuré, il s'est roulé par terre, il a enlevé son pantalon, il a enlevé son slip, il met ses fesses par terre, il dit, tu m'as fait pleurer par le sexe de l'homme, c'est le sexe de l'homme qui te fera pleurer toute ta vie. Il a frappé par terre, j'étais là, je regardais sa nudité, je dis, mais quand est-ce qu'il va me tuer? Quand est-ce qu'il va me tuer? Il m'a pas tué, mais il m'a maudite.
Il vous a maudite, oui. Oui. Et c'était la deuxième malédiction que le père de Laurentine Millebeau lui lançait. La première, c'était à sa naissance en la baptisant Malchance. Et la deuxième, la voilà, quand cette petite Congolaise, dont l'enfance chaotique va de malheur en malheur, croit enfin s'en sortir en tombant amoureuse du beau Gaston, qui lui fait un enfant.
Je ne sais pas si c'est la malédiction. Mon Gaston, qui était très gentil avec moi, qui m'avait jamais frappé, la semaine d'après, j'étais enceinte, il a commencé à me frapper dessus.
Mais vous croyez vraiment aux malédictions?
Ben oui, j'y crois.
Ouais.
J'y crois.
Et vous croyez qu'on peut faire quelque chose contre elles?
Ben, je ne sais pas, peut-être conjurer le sort, peut-être désenvoûter et tout. J'y crois parce que tous les hommes avec qui, même le Gaston, il n'a même pas vu la naissance de notre enfant. Il est venu en France, ma fille, il y a eu des choses, ma fille est morte. À 6 ans et demi, elle est morte. Je suis restée là-bas. Moi, je ne pensais plus que je... Parce que mon mari a épousé une autre. Il est venu en France. Et un jour, j'ai eu deux enfants. J'ai eu un enfant avec Manundu. Quand il est venu en France, j'ai eu un autre enfant avec un autre homme. C'était pareil. Et un jour, je reçois une lettre qu'il fallait que je vienne en France.
De Gaston?
De Gaston, oui. Gaston me fait venir en France. Je ne sais pas pourquoi il est venu. Il m'a emmené en France.
Et pourquoi vous y êtes allée? Parce qu'il vous avait battu, ça ne se passait pas bien avec lui. Pourquoi vous êtes partie?
Ben moi, la France, c'était le paradis. Et là, je débarque en France. J'arrive dans un quartier à la gare de Lyon, là. Un quartier qu'on appelait l'îlot Chalon.
Oui.
Ben, je vois, il y avait des immigrés qui étaient entassés. Là, je demande à mon mari, je dis, ici, c'est Paris? On n'avait même pas des toilettes dans la maison. Je dis, ça, c'est Paris? Elle me dit, oui, nous sommes à Paris. Je dis, oh là là. Il y avait des cafards partout, donc. Il y avait des cafards, les toilettes étaient dehors et tout. Je dis, quoi? C'est ça, Paris?
C'est une déception énorme.
Ah oui, une déception énorme. Je pleurais tout le temps, j'ai dit, je vais repartir chez moi. Et là, la malédiction de papa planait toujours. Mon mari qui m'a fait venir en France, je ne sais pas pourquoi il m'a fait venir, il a commencé à me battre.
Ah.
Quand je partais, quand je sortais de la maison après m'avoir battue, j'ai dormi dans le métro. Hein. Je ne vais pas raconter toute la misère que j'ai eue ici, je suis tombée quand même sur une amie qui s'appelait Awa, qui a tout fait pour que j'ai ma carte de séjour.
Donc vous avez quitté votre mari ?
Non, je ne l'ai pas quitté. Non. J'étais toujours
donc
là.
Vous continuiez à subir, à souffrir.
Oui.
Vous dormiez dehors quand c'était trop pénible,
oui, parce qu'il
etc.
buvait. Je pense que c'était la boisson, il buvait, je dormais dehors parfois. Et Awa me disait, mais pars de là. Je dis, mais non, mais c'est une honte. C'est lui qui m'a emmenée en France parce que je ne serais pas venue. Comment je pouvais penser ? Et avec Awa, on a fait, j'ai fait une formation de secrétaire.
Oui.
Une formation de secrétaire. Après, quand j'ai eu mon diplôme, je vais chercher du travail.
Mm-hmm.
Bah, j'étais aussi accoutrée. J'avais mis mon boubou africain pour aller chercher du travail.
Oh, ça me paraît une bonne idée, ça. Ça a dû plaire dans les entreprises.
Ah non, rien du tout. Au contraire, j'avais un turban sur la tête. Je vais. Déjà, la secrétaire me voit, ben, vous venez, on cherche pas de femme de ménage. Je dis, ben, je viens pas pour la place de femme de ménage, je viens pour la place de secrétaire.
Oups!
Elle me regarde. Mais en repensant maintenant, je me dis, est-ce que j'avais exagéré ou quoi? Je sais pas, je voulais être moi-même africaine. Hein.
Parce que vous saviez en même temps que c'était un peu une provocation.
Oui, je savais. Ouais. Je savais.
Vous vouliez qu'on vous accepte comme vous étiez.
Comme j'étais. Mm-hmm. Comme j'étais. Parce que je me dis, les Européens qui vont chez nous ne se mettent pas en boubou pour. Hein. Bon, moi j'étais en boubou. Mais après, je dis, ah bon, parce que les Noirs ne font que le ménage. Après, attendez, j'appelle le directeur. Le directeur arrive et dit, ah mais on n'a pas. La place est prise, hein, on n'a plus besoin. Bah, je dis non. Ça, je vais dans une cabine et je transforme un peu ma voix. Je dis alors, je vous téléphone pour la place de secrétaire. On me dit mais venez. Après je dis espèce de con et je raccroche et je pars.
C'est quand même des humiliations.
Ah oui. Et là depuis ce jour-là, j'ai voulu être n'être que femme de ménage.
Ah, vous avez fait femme de ménage?
Ah oui, j'ai fait beaucoup de ménage. Jusqu'à présent, je suis garde malade.
Ouais.
Je m'occupe des personnes âgées à domicile. Faire leur ménage, faire les courses, faire tout ce qu'une personne âgée ne peut plus faire. Il y a des associations qui nous envoient, quoi, qui nous placent.
Et c'est un métier qui vous plaît?
Oui, ça me plaît, le contact avec des personnes âgées. Bon, je chantais, après j'allais animer des veillées funèbres. J'allais souvent, oui, quand quelqu'un perdait une personne ou bien quand quelqu'un mourait en France, on m'appelait pour aller animer. J'allais, je consolais un peu les pleureuses. Bon, je pleurais un peu avec et puis après, je disais arrêtez, on va se raconter des petites histoires, des femmes cocues, des hommes cocues et tout. Après, je faisais rire quand même les pleureuses. Hein,
ah, oui.
Ah oui, je me rappelle un jour, on m'appelle, il y a une femme qui n'arrivait pas, elle avait perdu sa fille, elle n'arrivait pas à se consoler, on n'arrivait pas. Et un monsieur qui vient me dire, Laurentine, viens, il n'y a que toi peut-être qui peut faire qu'elle se calme un peu. Je me dis, mais comment je vais faire une femme qui a perdu son enfant, est-ce que je pourrais? J'arrive, je pleure avec elle, je pleure. Et puis après, je dis, stop, bon, on va parler. Et je raconte, j'ai vu cette dame rire.
Vous racontiez des histoires.
Des histoires, oui.
Que vous inventiez ou des histoires drôles,
traditionnelles?
Des histoires
traditionnelles, d'hommes cocus, des femmes cocus.
Ah, ça marche toujours.
Ah oui, ça marche toujours. Et moi,
vous en avez une là pour moi?
Ah oui.
Allez-y.
Oui. Un jour, il y a un homme qui allait souvent, il travaillait au chemin de fer, qui allait souvent travailler et sa femme recevait son amant à la maison.
Oh.
Et il y a toujours des gens de bonne volonté qui lui disaient « Mais tu sais, ta femme te fait cocu. » Lui, il dit « Non, ma femme m'aime trop, Madeleine m'aime. » Et un jour, il écoute quand même la personne qui le harcelait. « Écoute, reviens chez toi, sois sous un lit, tu vas voir. » Et l'homme, il revient à pas feutrer la nuit. La femme était à la douche. Il se met sous le lit. Et là, la femme reçoit son amant. Et après, il faisait l'amour. Et l'homme, l'amant est toujours là. Est-ce que ton mari te fait bien l'amour? La femme dit, oh, celui-là, il me fait même pas bien l'amour. C'est toi qui me fais l'amour. Et l'homme, il était derrière. Et il était sous le lit qui entendait tout.
Le mari, oui.
Et après, l'homme, quand la femme ronflait, parce que dans ce cas-là, la femme, elle est bien, elle ronfle, mais non.
Elle s'endort,
l'homme sort. Le mari, il sort sous le lit. Il va rester chez son ami, son complice. Et le lendemain, il revient à la femme qui dit « Oh, mon chéri, tu me laisses toute seule. Oh, mon chéri et tout. » L'homme dit « Attends, mon chéri, c'est moi, tu vas voir. » Et le soir, l'homme cherche sa femme, le mari, quoi, cherche à faire l'amour avec sa femme. Un temps, ils font l'amour, il met son oreille dans le sexe de la femme. Il dit « Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que tu me dis? Je suis cocu, je ne sais pas faire l'amour. » Et la femme, elle était là, elle dit « Mon Dieu !» mon sexe parle. Elle était là comme ça. La femme me dit, mais non, mais non. Après, le matin, elle va dans la salle de bain, elle prend l'eau et dit, elle frappe son sexe. Et l'homme vient qui l'écoute. Frappe, tu parles maintenant, tu parles. Et la nuit, l'homme met encore l'oreille. Elle t'a tapé. Elle a dit que tu l'as trahi. Ah là, la femme, elle était sûre que son sexe parlait. Ouais. Elle était sûre. Et après, son amant l'a attendu de ses nouvelles. Un jour, l'amant la voit en allant au marché, qui l'appelle Madeleine. Madeleine, pourquoi je ne te vois plus? Madeleine fait seulement un signe qui dit chut. Elle fait un signe. Mon sexe parle. Là, depuis, cet homme a gardé sa femme. Donc, ce sont des histoires comme ça. Des
alors, femmes ça, vous racontiez ça dans les veillées de mortuaires funèbres pour remettre de bonne humeur,
les femmes. Et c'est là que Michel Rafa du Ballet Limba me voit, me remarque, me dit tu vas venir chanter avec nous et tout. Je chante avec lui.
Et c'est comme ça que de fil en aiguille, Laurentine Millet-Beau trouve sa vocation. Animatrice, chanteuse et plus tard comédienne.
Un jour, j'étais dans un moment difficile, dans la déchéance terrible. J'allais être expulsée quoi, de mon appartement parce qu'avec l'argent des ménages et tout, quand j'allais animer, on ne me donnait rien. Ouais, je ne pouvais pas payer mon loyer. Et je demande à Dieu, mon Dieu, où est-ce que je vais partir? Ce jour-là, j'ai dit, mon Dieu, je vais devenir SDF. En ce moment-là, il n'y avait pas SDF, hein, 27. Je vais devenir clocharde et tout. Et deux jours après, Michel Rafa téléphone qu'on cherchait une grosse pour faire Innocence dans Black Micmac 2.
Dieu vous a répondu.
Oh, il m'a répondu très bien.
C'était fini, malchance,
alors.
Oui. Hein.
On cherche une grosse. Je dis, mais je n'ai jamais pris de cours, moi. Pour moi, faire du cinéma, c'était prendre des cours.
Ouais. Allez, audition.
Audition, je vois des grosses, je dis, mon Dieu, elles ont pris des cours, moi on ne me prendra pas. Je ne sais pas quel geste j'ai fait, on m'a prise. J'ai commencé, c'était Marco Poli. Ouais. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé, j'ai eu des rôles dans de petits films et tout. Quand j'ai fini ma dette de loyer, plus de films à faire.
Aïe.
Je dis, pourtant j'étais bien.
Quand il fallait repris un petit coup là.
Ah oui, quand j'étais devant la caméra, c'était bien. Il fallait reprendre encore à faire des ménages. Ça fait rien. Ben, c'est pas un métier ingrat, c'est bien. Et après.
Après, il y a eu Ripou contre Ripou.
Ripou contre Ripou, Elisa, L627.
Voilà, donc quand même, ça c'est pas mal.
C'est
Navarro,
pas mal, mais c'est là que j'ai eu un peu
Moulin.
Oui, et c'est là que j'ai eu un peu de sous pour finir la dette de loyer.
Ah,
oui.
Ça y est.
J'ai fini la dette de loyer et puis plus rien.
Mais vous vouliez maintenant, là, vous disiez vraiment, si je pouvais être comédienne, ce serait...
Bien sûr, parce que...
C'est ça que vous vouliez faire.
Ah oui, j'étais bien devant la caméra, quoi. Mm-hmm. La Laurentine qui a eu des déboires dans la vie, et devant la caméra, elle était elle-même. Et j'ai rigolé bien. Et un jour, j'ai un coup de fil de monsieur Jean Oudoutan, un réalisateur béninois, le réalisateur nègre, je l'appelle, qui dit, Laurentine, j'ai du travail pour toi, mais il n'y a pas d'argent. J'ai dit, oh, encore. Mais quand j'ai lu son premier scénario, ce n'était pas un court-métrage. Pour moi, je me dis, c'est un moyen-métrage. Kalamazoo. Et puis, on a continué à travailler sans rien, sans argent. Mm-hmm. Un jour, il a écrit Barbecue Peugeot. Mm-hmm. Il dit, je t'emmène au Bénin. J'ai dit, qu'est-ce que je vais aller, moi, la Congolaise, je vais aller au Bénin
vous
travailler.
Vous n'étiez pas retournée en Afrique depuis votre départ?
Si, je retournais quand même en Afrique. Quand je repartais, c'était la fête avec la maman et tout. Je voyais un peu mon père aussi, qui était toujours tyrannique, qui ne me respectait toujours pas.
Ah bon, passons alors. Donc vous partez au Bénin?
Oui, je pars au Bénin. Je suis tombée amoureuse de ce pays, des gens accueillants et tout. On fait barbecue Peugeot, on revient en France.
Et là, il fallait que vous preniez l'accent béninois.
Oui, il fallait prendre l'accent béninois. Qu'est-ce que je fais? Le réalisateur dit, tu prends l'accent béninois. Mon Dieu, il y a eu des comédiens béninois qui m'ont prise en charge.
Ils vous ont appris l'accent?
Oui, particulièrement un jeune béninois qui s'appelle Vianney Café, qui m'a appris. Comme ça, gratuitement. Il m'a appris, il m'a fait répéter au bord de la mer. Il m'a fait beaucoup travailler, décrit, crier, pleurer. C'est lui qui me faisait travailler.
Mais alors ce film, c'est un film qui a très bien marché. Vous avez eu un prix.
Ah oui, j'ai eu même deux prix. J'ai eu le prix Air Afrique au Festival de Milan. Mm-hmm. J'ai eu un prix aussi, le prix exceptionnel du jury au Maroc, à Kouribga. Et là, moi, ce prix, moi je pensais que c'était... Le prix qu'on donnait au réalisateur. Je suis partie parce que le réalisateur ne pouvait pas partir. Il avait un film à finir. On avait fini Mama Aloko. Il me dit, Laurentine, tu veux partir? Je pars. Toute la semaine, j'étais là. On était bien accueillis. J'étais là. J'allais voir des films. Il y avait des conférences et tout. Et le jour de la remise de prix, je disais aux autres, vous avez peur, hein, c'est un concours. On me dit, mais... Ben, on va donner des prix aux comédiens aussi. Je dis, quoi? Je suis restée pendant toute la semaine à rire. Mais j'avais pas peur. Et là, 15 minutes avant...
Le trac qui vous tombe dessus.
Voilà. Il y a deux réalisateurs qui ont eu des prix, Don Quichotte. Et moi, il y a le gars qui parlait, ne parlait pas bien. On avait des casques. Et j'entends Laurentine Milebo. Je dis, quoi? Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des caméras, il y a des photographes. Oh là là là!
Alors, vous avez fait comme au César, vous avez fondu en larmes.
J'ai pleuré, mais c'était des larmes, des vraies larmes. C'était la première fois qu'on me donnait quelque chose. Mis à part les rôles que M. Jean Audoutan écrivait pour moi. C'est la première fois que j'avais un prix.
Alors?
Oh là là, j'ai pleuré, je suis montée. C'était pas Cannes, mais c'était mon Cannes à moi. C'était ma palme d'or à moi. Mais dans ce cas-là, j'ai pensé à mes enfants. J'ai pensé à toutes les femmes qui ont galéré. À toutes les femmes qui sont dans des tunnels. Et je leur ai dit, quelle que soit la durée de la nuit, quelle que soit la longueur du tunnel, il y a toujours une lumière au bout. Parce que moi, est-ce que moi, je pensais, moi, qu'on appelait moins que rien, est-ce que je pouvais penser qu'on pouvait parler de moi dans des journaux ici en France? Mon père disait que j'étais une moins que rien. Les hommes avec qui j'étais me disaient toujours, qu'est-ce que tu peux faire de ta vie? Et là, c'est moi qui ai joué dans ce film. Et c'est moi qu'on donne le prix. C'est moi qu'on appelle. Ah non, j'étais émue, je pleurais.
Je vois encore très émue là.
Ah oui, je pleurais, j'ai trop souffert dans ma vie. Trop souffert, et là c'était Laurentine qui avait ce prix. À ma mère. Cette femme aigrie qui est devenue aigrie, qui n'est plus bien, qui boit parce qu'elle a trop souffert. Et moi, un temps aussi, j'ai commencé à boire parce que je souffrais. Et là, Jean Audoutan est venu m'enlever de là, quoi, en me donnant ces rôles-là. Parce que j'ai fait trois films avec lui, trois grands films avec lui. Là, il y a Djib.
Et vous avez quel rôle, alors?
J'ai le rôle d'une grand-mère dans Djib.
D'une grand-mère, une bien jeune grand-mère, alors.
Mais la façon dont on m'a maquillée aussi, on me voit vraiment grand-mère. Une grand-mère qui est en France, mais qui pense toujours à son pays, à son Afrique. Mm-hmm. Oui, qui ne veut pas que son petit-fils soit avec les voyous de banlieue, quoi. Mm-hmm. Elle cherche à ce que son petit-fils... aille à l'internat, que son petit-fils soit comme M. Léopold Sédar Senghor, comme M. Nelson Mandela. Et c'est émouvant. C'est un film, il faut aller voir, quoi, des jeunes de banlieue. Et c'est bien pour moi. Je trouve que même Laurentine, avec son petit-fils, parce que j'ai deux petits-fils, pouvait jouer ce truc.
Mais aujourd'hui, vous gagnez votre vie avec votre métier de comédienne suffisamment?
Non,
ou non,
non.
Vous continuez à faire les deux métiers?
Oui, je continue à faire les deux
comédienne
métiers.
Comédienne et puis femme de ménage.
Oui, je continue. Oui. Continue de faire. Ouais, mais j'aimerais, hein, si un jour il y a des rôles qui viennent.
J'espère bien.
Ah oui, j'aimerais continuer à faire du cinéma, mais je pense qu'il y aura toujours des gens comme M. Jean Audoutan à nous donner à nous donner du travail, mais qu'on l'aide aussi, qu'on aide ces gens-là à avoir des subventions pour nous faire travailler, nous les Africains, pour faire d'autres rôles que femmes de ménage dans des films, que infirmières, que dames pipi, quoi. Parce que l'Africain peut tout faire, peut être magistrat, juge, avocat et tout. Et moi, s'il y a un rôle que j'aimerais faire, c'est être avocate. Être avocate pour... plaider pour les causes perdues, pour les gens qui n'ont pas d'argent, parce qu'il y a des gens qui sont
en
prison.
Pour les petites filles qu'on a appelées malchance à la naissance.
Oui, pour des petites filles, oui. Parce que moi, dans ma tête, je suis toujours petite fille.
Portrait sensible, aujourd'hui, c'était Laurentine Millet-Beau, comédienne.
Quelle Tinawen, la lutte continue pour les Tinariwen dans le NRV France Inter Plus de Chris ce soir. On continue le NRV la suite avec la chronique Chris Crumble. Le dimanche 25 juin 2006, Chris faisait une vraie fausse interview très sexy de Jacques Chirac, un moment de radio très cul.
On va imaginer que vous êtes incognito, je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous vois dans la rue. Je me dis, cet homme est magnifique, il faut absolument que je lui parle.
Ça prouve que vous avez bon goût, n'est-ce pas?
D'accord. Donc je m'approche, je vous dis, je suis désolée, ce n'est pas dans mes habitudes, mais vraiment, je suis subjuguée. Est-ce qu'on peut faire connaissance?
Ah ben, je suis ravi, n'est-ce pas? S'agissant de vous, oui, naturellement, je suis ravi. D'ailleurs, vous savez, j'aime beaucoup avoir un contact personnel, et quand il s'agit de surcroît d'une jolie fille, alors là je suis tout à fait satisfait. Je ne suis pas contre les contacts, au contraire. Chacun puisse s'épanouir librement et jouir vraiment.
Mais c'est pas moral ce que vous me dites là.
Ça, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas parler d'amour. Mmh. Il y a des exhibitionnistes naturellement un peu partout, qui ont d'ailleurs leur charme, parfois c'est amusant.
Oh, amusant, me disais-je. Oh, on va s'amuser. Le grand Chi me propose de le suivre à l'hôtel de ville, évidemment, et me fait découvrir le décor. Grâce à un montage habile, je crois que je le trouble.
Nous avons ici ou là des petits salons qui étaient d'ailleurs souvent fermés. Nous avons par exemple un petit salon ici, tout à fait clos, une pièce merveilleuse. Et c'est un endroit où l'on peut se... dans un petit coin et où...
Je suis une fée, je peux tout faire.
Eh bien écoutez, vous pouvez tout faire, vous voyez, il y a là une...
Elle est comment?
Elle est très jolie, elle est grande.
J'ai l'impression d'être Alice au pays des merveilles. Tout a grandi autour de moi.
Vous m'épargnez ainsi 2 heures de travail pour ce soir, je suis le plus heureux des hommes.
De toute façon, je sais que vous êtes plus fort que moi.
Ça, c'est d'abord pas évident, n'est-ce pas? Et on dit que les femmes en ont plus que les hommes. Alors pour une fois, laissons-nous aller.
C'est ça, laissons-nous aller. Ceci est un montage, évidemment, et vous trouverez l'original sur le site franceinter.com. Mais laissons-nous aller. Mais avant l'amour, vous savez ce qui se passe? On se raconte sa vie, ses premières amours. Alors, grand Chi, c'était comment?
Ça a été une période tout à fait fabuleuse. J'étais exceptionnel, c'est-à-dire que c'était tout à fait sauvage. Et nous pêchions, je pêchais.
Vous aimez pêcher?
D'abord, j'aime beaucoup pêcher, mais là, je pêchais dans une totale liberté.
Est-ce que vous avez déjà mordu?
Mordu, non, je ne suis pas, non. Non, je ne suis pas.
Moi, je mordais beaucoup.
Oui, non, mais je conçois qu'une fille morde. Je crois que ce n'est pas la caractéristique d'un garçon. Nous flanquions des peignets homériques. Et j'ai passé là un moment très, très exaltant, très merveilleux. Ce qui, naturellement, n'est plus le cas aujourd'hui.
Du coup, j'hésite à me donner, vous vous en doutez. Enfin, le grand Chi n'est jamais à court d'arguments.
Ah, vous manquez quelque chose. Vous manquez quelque chose, à la fois sauvage et raffiné.
Oui, j'en suis sûre.
Je n'ai pas la Gaule d'antan. Je n'ai pas suffisamment souvent l'occasion de le faire. Mais c'est très enthousiasmant pour moi, voyez.
Allez, finalement, le grand Chi, c'est quand même une expérience unique, je me disais. Par pudeur, je ne vous dirai pas ce qui s'est passé pendant. Mais après, petit commentaire sur l'oreiller, après l'amour.
Je suis très content. Finalement, vous savez, moi, je me trouve assez bien. Et ça ne me fatigue pas. Et j'en éprouve un immense plaisir. Une véritable jouissance. Et je me dis qu'au fond, l'intensité du plaisir que j'éprouve, en accéléré, est probablement beaucoup plus grande que le plaisir que j'aurais si j'avais des heures et des heures. Et on peut effectivement quantifier le bonheur en longueur et en temps. On peut également le quantifier en intensité. Là, j'ai eu un moment d'épanouissement parfait. Je me sens bien.
C'était le NRV La Suite France Inter Plus de Chris et ça continue demain avec son portrait sensible de Bambi, danseuse de cabaret et pionnière des luttes des personnes trans en France. Je vous souhaite le bonsoir.